en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le 1er février 2010, John Rogister, membre correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques, a prononcé une communication sur « Coutumes et constitutions en démocratie » dans le cadre de la thématique 2010 de l'Académie consacrée à la démocratie. Aujourd'hui, la Constitution britannique est la seule qui se rattache au droit coutumier. Le regard d'un historien britannique sur la dernière constitution coutumière qui existe en Europe, particularités, réformes et adaptations. Retrouvons John Rogister en séance.
Me permettez-vous d'abord d'adresser une pensée émue à la mémoire de notre confrère, le ministre Jean Foyer, garde des Sceaux du général de Gaulle, avec lequel j'avais souvent le plaisir de m'entretenir des contradictions dans les constitutions écrites. Alors, vous m'avez donné un sujet assez vaste, non défini réellement, mais je vais m'essayer de m'en tirer le mieux possible. La plupart des pays de l'ancien régime européen et chrétien étaient gouvernés selon les principes d'un droit coutumier. En général, il s'agissait de monarchies de droit divin avec des institutions représentatives, soit des parlements ou diètes, soit des assemblées d'État, jouissant de privilèges établis au cours des siècles. Ces privilèges étaient considérés comme des libertés, des forts ou des fueros, et ils étaient confirmés ou réaffirmés par des chartes ou des statuts particuliers qui étaient régulièrement invoqués au point qu'ils constituaient la base d'un droit public non codifié. De nos jours, la Constitution britannique est la seule qui se rattache encore à ce passé, et cela en pleine période dite démocratique. En effet, la naissance des premières formes de la démocratie basées sur la souveraineté d'un peuple ou d'une nation, entre 1787 et 1831, est liée à l'élaboration de constitutions écrites. La Constitution américaine du 7 septembre 1787 rejette implicitement la souveraineté du roi George III pour formuler à sa place une souveraineté populaire. Par la suite, en 1791, 10 amendements à cette Constitution incorporèrent un Bill of Rights, qui est une définition des droits humains considérés comme fondamentaux. La Constitution américaine, comme tout le monde le sait, est toujours en vigueur et n'a subi que 27 amendements, le dernier datant de 1992. En Europe, la Constitution polonaise du 3 mai 1791 anticipe de quelques mois la première Constitution française écrite et issue de la Révolution. Ni l'une ni l'autre de ces constitutions ne furent de longue durée, mais elles ont laissé des traces. Et il est surtout intéressant de les comparer, comme je le ferai dans un instant. Supprimée avec la Pologne elle-même en 1793, à la suite du partage du pays par ses voisins, la Constitution du 3 mai 1791 devint un symbole de l'indépendance du pays, comme cela avait été le cas aussi pour la plupart des chartes coutumières de l'ancien régime européen. Après la chute du régime communiste, les Polonais voulurent que la promulgation de leur nouvelle Constitution puisse coïncider avec le bicentenaire de la première. Cela ne put se faire, mais depuis 1990, le 3 mai est devenu jour férié en Pologne. De la Constitution française de septembre 1791, nous ne retiendrons que le fait qu'elle emploie le terme de roi des Français, qui sera repris sous la monarchie de Juillet, sous les empires, et aussi celui de corps législatif que nous retrouverons sous les deux empires. Elle établissait le principe que seuls les citoyens qui payaient une contribution directe pouvaient être citoyens actifs, composant les assemblées primaires qui nommeraient les électeurs. Ce principe sera repris sous des formes différentes jusqu'à l'introduction du suffrage universel. Il est intéressant de comparer les trois constitutions écrites, l'américaine, la polonaise et la française, ne fût-ce que pour voir ce qu'elles conservaient du droit public coutumier. Les États-Unis se séparaient de la Grande-Bretagne, dont la Constitution n'est pas écrite, mais garantissait des droits qui n'avaient pas été étendus aux colonistes américains. Ces derniers avaient repris le droit coutumier anglais à leur compte avec le Bill of Rights, et même le droit coutumier écossais pour le système électoral, par exemple. Ils ont, pour ainsi dire, codifié un droit coutumier tout en acceptant qu'il était nécessaire d'établir l'ordre politique sur des bases nouvelles. La déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776, qui est distincte de la Constitution, mais en est l'inspiration, fournit ces bases nouvelles, dont celle de la recherche du bonheur, entre guillemets, qui est en fait une vieille notion polonaise. Dans leur constitution du 3 mai 1791, les Polonais avaient conservé l'ancienne structure politique et coutumière de leur fédération, roi et noblesse, diète composée d'un Sénat et d'une Chambre des députés. En 1791, ils ont réorganisé le rôle de ceux-ci et fixé les rapports entre eux. Quant aux Français, ils ont fait table rase de l'ancien régime et de ses institutions, ne gardant que le roi et les notaires. Enfin, les trois constitutions énoncent des principes libertaires plus ou moins nouveaux. Bill of Rights emprunté aux Anglais pour les Américains, Déclaration des droits de l'homme pour les Français, et plus discrètement, bien public et liberté pour tous chez les Polonais. Américains et Polonais invoquent Dieu. Les trois constitutions se donnent comme guide la nécessité d'introduire la séparation des pouvoirs que Montesquieu avait cru à tort apercevoir dans la constitution coutumière de la Grande-Bretagne. Comme la France a fait table rase de la constitution coutumière du royaume en 1789, il n'est pas inutile de revenir un instant sur la nature de cette dernière constitution coutumière. La France de l'Ancien Régime avait ses lois fondamentales et il y avait la notion que le pouvoir du roi, tout en étant absolu, n'était point despotique. L'esprit de la monarchie était celui d'un pouvoir royal guidé par l'esprit de justice et de conseil. Et en fait, comme je l'ai expliqué ailleurs, la réalité de l'exercice du pouvoir dans la France monarchique était celui d'un dialogue constant entre le monarque et ce qu'on peut appeler, comme le faisait Montesquieu, les pouvoirs intermédiaires, assemblée d'État, parlement, clergé de France, ou entre gouverneurs et gouvernés. Cela faisait partie de ce que l'historien portugais contemporain Pedro Cardim a appelé la culture politique d'une monarchie, un système qui ne fonctionnait pas sans heurts, mais que l'on trouvait ailleurs en Europe à cette époque. De ce système, la Révolution française a fait table rase. Par la suite, Napoléon a réalisé une synthèse entre ce qui a été considéré par la suite, à tort selon moi, comme, entre guillemets, l'œuvre administrative de la monarchie, fin de guillemets, et les conceptions modernes de l'État, de la nation et des droits de l'homme. Ensuite, par la charte de 1814, Louis XVIII a réalisé un autre mariage entre la fiction restaurée d'une monarchie légitime de droit divin et coutumière et une constitution écrite d'inspiration anglaise basée sur une forme restreinte de représentation nationale, petit clin d'œil à 1791, avec en plus l'armature administrative de Bonaparte. Par le canal de la Chambre des Pairs, la noblesse récupérait une partie de son ancienne influence, mais non ses privilèges de l'Ancien Régime. Compte tenu des réalités politiques et sociales de la France en 1814-1815 et les complexités des institutions et notions constitutionnelles de l'Ancien Régime, tout retour à ce dernier paraissait en général hors de question. Paradoxalement, il faudra attendre la Constitution 1852 pour qu'apparaisse un curieux rappel de l'Ancien Régime et de sa Constitution coutumière. Dans sa proclamation du 14 janvier 1852, présentant la nouvelle Constitution à l'approbation du peuple français au suffrage universel, le prince-président déclarait que le futur Sénat serait le gardien de la Constitution, avec le droit d'annuler tout acte arbitraire et illégal. Ainsi, il remplirait dans l'État, et je cite, « le rôle indépendant, salutaire, conservateur des anciens parlements ». Fin de citation. En tant qu'historien de vos parlements de l'Ancien Régime, je n'ai jamais pu m'empêcher de féliciter rétrospectivement Napoléon III, unique parmi vos gouvernants des deux derniers siècles, pour cette belle initiative. Mais je sais que vous voulez surtout m'entendre parler de la dernière constitution coutumière qui existe en Europe, celle du Royaume-Uni, et je vais y consacrer le reste de ma communication. Mais je voulais d'abord la placer dans un contexte historique où à l'origine toutes les constitutions étaient coutumières. Je voulais aussi attirer votre attention sur l'attrait que la coutume n'a jamais cessé d'exercer, même sur les constitutions écrites et ou codifiées. De cela, je vais me permettre de vous donner un dernier exemple. En 1814-1815, le traité de Vienne avait de nouveau réuni, après un intervalle de plus de 200 ans, les provinces unies devenues le royaume de Hollande sous Napoléon Ier et les anciens Pays-Bas autrichiens devenus départements français depuis la Révolution, en un nouveau royaume de Hollande. Or, en 200 ans, la culture politique de ces deux vieilles entités avait bien évolué. L'aristocratie terrienne, située surtout dans la partie belge du nouvel État, voulait un retour à la vieille représentation provinciale, coutumière et aristocratique d'avant les invasions révolutionnaires françaises. Tandis que les Hollandais voyaient surtout en un État unitaire l'élimination des vieilles divisions entre provinces quasi autonomes, source funeste de leur affaiblissement dans le passé. Le compromis fut la création d'un système parlementaire bicaméral à l'anglaise, dans lequel une chambre haute donnait de l'importance à la noblesse conservatrice belge. Néanmoins, la longue et forte tradition de la représentation provinciale, basée autrefois sur chartes et coutumes, en Belgique ne devait pas permettre à ce compromis de résister aux tensions politiques, religieuses, sociales et industrielles qui firent éclater le nouveau royaume en 1830. La constitution belge de 1831 devait permettre au nouveau royaume de Belgique de s'inspirer de fortes traditions provinciales de représentation politique, avec au début une base électorale restreinte ou notable. Au fur et à mesure que les nations européennes se constituaient en État et se donnaient des institutions représentatives, cette constitution belge de 1831 devint un modèle pour plusieurs d'entre eux, tels la Grèce, la Roumanie et la Bulgarie. J'en viens enfin à la constitution anglaise, celle qui a survécu le plus longtemps. Il est étonnant en effet que des institutions datant du Moyen-Âge, comme une monarchie de droit divin, et une chambre des lords, en grande partie héréditaire jusqu'à très récemment, ait pu résister si longtemps au passage du temps et aux secousses de l'histoire, sans oublier les bouleversements sociaux et l'évolution des croyances. Pendant la période la plus déprimante de la dernière guerre, en 1941, l'historien J.M. Young publia un court ouvrage illustré intitulé « The Government of Britain ». Il y rappelait la définition classique de la Constitution donnée par le journaliste Walter Badgett en 1867 et par le juriste Davy Dicey en 1885. En Grande-Bretagne, la souveraineté était une souveraineté parlementaire exercée par la reine agissant à travers le Parlement. « What the Queen in Parliament enacts is law », ce que la reine décrète en Parlement est loi. À l'école, il y a encore 50 ans, l'on enseignait l'histoire constitutionnelle simplifiée du pays. À l'université, elle faisait souvent partie du programme des départements d'histoire et de droit. On présentait généralement une vision linéaire de l'évolution remarquable du Parlement, qui plus encore même que la couronne était au cœur de la constitution non écrite, coutumière du pays et de l'Empire. Avec l'aide d'éditions de Constitutional Documents, un étudiant pouvait suivre à travers les siècles la transformation d'une curia régis médiévale en un parlement bicaméral, l'or et commune, conseillant et soutenant le souverain dans ses multiples activités de législateur et de juge. Ensuite, après la guerre civile et la glorieuse révolution de 1688-89, le Parlement était devenu le garant de la liberté légale du sujet contre l'arbitraire de souverains influencés par des idées absolutistes dites continentales. Les rapports de force entre le souverain et le Parlement avaient été réglés au XVIIe siècle, tandis que la nature du gouvernement royal fut déterminée au siècle suivant. Le roi n'agirait plus que sur l'avis de ses ministres, et l'un de ceux-ci, devenu officieusement le premier ministre, et je cite, « avait le plus de poids dans le conseil et occupait la première place dans la confiance du roi ». Fin de citation. Le roi devait se résoudre à ne prendre comme premier ministre qu'un homme qui pouvait compter sur une majorité de voix à la Chambre des communes. Si le XVIIIe siècle avait vu se régler les rapports entre le souverain et le Parlement, le 19e fut celui où furent déterminés ceux entre le Parlement et le peuple. D'un électorat qui, au début du 19e siècle, n'avait guère changé depuis la fin du Moyen Âge, on passera au suffrage universel sans révolution, mais non sans émeute. Un parcours jalonné par 5 actes du Parlement en 1832, 1867, 1884, 1918 et 1922. Avec aussi l'introduction du vote secret en 1872. Au XXe siècle et au début de celui-ci, la question des rapports de puissance entre les deux chambres du Parlement a été abordée à plusieurs reprises, en 1911 et 1945 par les Parliament Acts et en 2005 par le Constitutional Act. Ces lois limitèrent les pouvoirs de la Chambre des Lords et plus récemment enlevèrent à la majorité des pairs héréditaires le droit d'y siéger. Je me souviens encore, il y a près de 50 ans maintenant, étudiant à l'aide des Constitutional Documents de Tanner, la résistance de la Chambre des communes et des tribunaux royaux au pouvoir royal de Charles Ier. Cette résistance s'exprimait non seulement par des décisions parlementaires ou des textes comme la pétition des droits de 1629, mais aussi par des jugements rendus dans les tribunaux où l'on invoquait volontiers la Grande Charte de 1214. La constitution coutumière anglaise a toujours reposé sur ces deux éléments, les communes et les tribunaux. Et comme je le montrerai dans un instant, cela est toujours le cas, sauf que la Chambre des Lords semble avoir pris la relève de celle des communes dans ce domaine. J'ajouterai que l'étude des conflits constitutionnels du XVIIe siècle s'accompagnait volontiers de l'étude de la littérature, surtout de la poésie de Milton, fortement marquée par les événements de l'époque. Ces études formaient une belle éducation civique. Or, le temps de la constitution de Badgett, de Dicey et de ma jeunesse sont révolus. Le Royaume-Uni est en train de modifier sa constitution une nouvelle fois. On n'en parle pas beaucoup, et cela pour deux raisons. Premièrement, parce que la constitution n'est pas écrite et que les changements que l'on est en train d'y introduire le sont, et je cite, « pièce à pièce, sans plan et d'une manière pragmatique, in a piecemeal, unplanned and pragmatic way », pour reprendre la phrase du constitutionnaliste Vernon Bogdaner. Deuxièmement, c'est un fait bien connu que les Britanniques ne s'intéressent pas beaucoup à la constitution de leur pays, et à ce sujet, Bogdaner ne fait que de reprendre l'opinion exprimée par J.M. Young en 1941. Il y a eu d'abord la modification de la composition de la Chambre des Lords par le gouvernement de Tony Blair. Presque tous les pairs héréditaires ont été exclus. À la suite d'un compromis qui sera lui-même prochainement remis en question, seuls 92 pairs héréditaires continuent à siéger à la Chambre haute. Ensuite, depuis le mois d'octobre dernier, la Chambre des Lords a perdu le rôle judiciaire qu'elle a exercé depuis près de 6 siècles pour être remplacée par une Cour suprême. La charge de Lord Chancelier d'Angleterre, chef de la magistrature et président de la Chambre des Lords, a été mise en veilleuse. Annoncée en 2003, à l'occasion d'un simple remaniement ministériel, Ces changements fondamentaux n'avaient fait l'objet d'aucune discussion préalable avec les pairs judiciaires, les law lords, ou à l'extérieur du gouvernement. Il n'y a eu aucun débat public sur le rôle que jouerait la nouvelle Cour suprême. Même l'inauguration de cette cour dans d'impressionnants locaux ayant coûté près de 77 millions de livres n'a rien fait pour ranimer l'intérêt des Britanniques pour leur constitution. Le Times s'est plaint que la salle destinée à la presse n'était pas prête à temps et The Guardian a été surtout impressionné par la qualité des toilettes. Toujours est-il que la Cour suprême sera plus ouverte à tous, plus visible que l'ancienne juridiction d'appel de la Chambre des Lords, et ses jugements seront rédigés de manière, nous dit-on, à les rendre intelligibles au grand public. Dans le domaine constitutionnel, Lord Faulkner, qui pilota la création de la Cour suprême, a prétendu qu'elle renforcerait la branche judiciaire et rendrait les juges plus disposés à confronter l'exécutif. Par exemple, dans le domaine des libertés individuelles, fortement menacées de nos jours. L'année dernière, le gouvernement avait mis sous séquestre les avoirs de gens soupçonnés de complicité dans des actes de terrorisme. La semaine dernière, la Cour suprême, à laquelle les victimes de ces décisions avaient fait appel, a rendu un jugement contre le gouvernement, le condamnant pour avoir violé le droit des citoyens sans avoir obtenu le consentement préalable du Parlement. La réaction du gouvernement a été prévisible et peu encourageante. Il introduira le plus rapidement possible un texte législatif lui permettant de maintenir le séquestre. C'est une affaire à suivre. Déjà, lors de la création de la Cour, un de ses juges avait préféré la quitter pour prendre un poste moins élevé dans la magistrature en disant, et je le cite, « Le danger est que vous tripotez, muckabout, vous tripotez avec une constitution comme la constitution britannique à votre péril, car vous ne savez pas quelles seront les conséquences de tout changement. » Fin de citation. De toute manière, selon Vernon Bogdaner dans son dernier ouvrage, The New British Constitution, la Constitution britannique telle qu'elle avait été définie n'existait déjà plus depuis 1973, le moment où la Grande-Bretagne est entrée dans la communauté européenne. Dès que le traité de Rome, comme maintenant le traité de Lisbonne, prenait la préséance sur les actes du Parlement britannique, la souveraineté de la reine dans le Parlement disparaissait. Bogdaner a analysé au moins 15 changements qui, depuis cette époque, ont réduit à néant l'ancienne Constitution. J'ai déjà évoqué la création de la Cour suprême, la mise en veilleuse de la charge de Lord Chancelier d'Angleterre, autrefois chef politique de la magistrature, remplacé par un simple ministre de la Justice et président de la Chambre des Lords, où sa place est maintenant prise par un président ou Lord Speaker ou Lady Speaker élu. Il y a aussi le roman fleuve de la réforme de la Chambre des Lords. Autrefois, elle était composée de pairs héréditaires et de pairs nommés à vie par le Premier ministre avec quelques nominations accordées aux partis de l'opposition. Depuis l'élimination de la majorité des pairs héréditaires, on ne voit pas clairement dans quelle direction ira la réforme. Aura-t-on une chambre dont les membres seront nommés entièrement par le Premier ministre du jour ? Ce dernier trouve déjà que c'est fort commode de pouvoir propulser vers la Chambre des Lords des personnes qui n'ont pas été élues démocratiquement, mais dont on a besoin au gouvernement. Le public n'aime pas l'idée que les pairs deviennent des créatures d'un Premier ministre, les pantins de Tony, Tony's cronies, comme on les appelait du temps de M. Blair. Si l'on décide qu'à l'avenir, les pairs ou simplement une proportion d'entre eux seront élus, comment et par qui seront-ils élus ? Le principe même de l'élection ne va-t-il pas donner un mandat électoral à la Chambre haute et en faire une rivale de la Chambre des communes ? En tout cas, l'idée d'abolir la Chambre des Lords ne semble plus progresser beaucoup dans les esprits. La dévolution, comme on l'appelle, c'est-à-dire le rétablissement d'un Parlement et d'un gouvernement en Écosse, la création d'une assemblée régionale au Pays de Galles et les curieux arrangements constitutionnels qui déterminent aujourd'hui le gouvernement de l'Irlande du Nord sont autant d'entorses supplémentaires à la Constitution anglaise. Parmi d'autres modifications qu'elle a subies, il y a l'indépendance accordée à la Banque d'Angleterre en politique monétaire, l'introduction partielle de la proportionnelle, le recours à des référendums et les effets du droit à l'information. Il y a eu un cas de violation d'immunité parlementaire par la police dans l'enceinte même du palais de Westminster. Le scandale récent au sujet des frais abusifs que s'accordaient beaucoup de parlementaires peut entraîner des poursuites judiciaires dans un domaine où l'autorité de la Chambre des communes était autrefois considérée comme souveraine. Dans l'enquête qui suit son cours sur les origines de la guerre en Irak, il a été révélé que l'Attorney General, ou avocat général, qui est chargé des aspects légaux de l'action de l'État, aurait accepté de changer d'avis concernant le statut en droit international de l'intervention militaire de la Grande-Bretagne aux côtés des États-Unis. Cela a provoqué une demande pour que ce poste historique ne soit plus détenu par un membre du gouvernement. Un tel changement constituerait une nouvelle attaque contre les pouvoirs exercés traditionnellement au nom de la souveraine. Selon Vernon Bogdanagh, le Royaume-Uni serait à la veille de passer de la souveraineté parlementaire qui est à la base de sa constitution coutumière à la souveraineté populaire. Il envisage même la possibilité un jour d'une constitution écrite commençant par les mots « nous le peuple »,« we the people ». Je ne pense pas que l'on ira si loin dans cette voie. Certes, le Human Rights Act 1998 donnant effet à la Convention européenne des droits humains, contient une section établissant que l'effet de toute législation doit être compatible avec cette convention. En 2004, les Law Lords, siégeant toujours à la Chambre des Lords, par 4 voix à une seule, décidèrent que la phrase « surviving spouse », époux ou épouse survivant-survivante, dans un acte du Parlement, s'appliquerait aux survivants d'une union civile gay permise par la loi. La voix dissidente, celle de Lord Millet, exprima la crainte que cette interprétation judiciaire d'un texte parlementaire précis constituerait une violation de la suprématie du Parlement en matière de législation. Mais Lord Millet se gardait bien de dire, comme l'auraient fait ses prédécesseurs, que la doctrine de la souveraineté parlementaire était sacro-sainte. Mais il pensait que tout changement dans un principe constitutionnel devait être le résultat d'un acte du législateur et non pas de ce qu'il appelait l'activisme judiciaire, même bien intentionné. Mais alors, l'incorporation de la Convention européenne des droits humains dans un acte du Parlement britannique n'était-il pas déjà lui-même un acte du législateur? Le Human Rights Act pèse d'une autre manière sur la Constitution. Une commission mixte des deux chambres a considéré que l'Act of Settlement de 1701, celui qui avait réglé une fois pour toutes l'ordre de succession à la couronne, en empêchant que les membres de la famille royale épousent des catholiques romains sans perdre leur droit à la succession, était contraire aux articles 14, discrimination pour cause de religion, et 12, droit au mariage pour les hommes et les femmes, de la Convention européenne. La même commission a trouvé aussi que la préséance accordée dans l'ordre de la succession à la couronne aux fils cadets plutôt qu'à leurs sœurs aînées est également discriminatoire. La position adoptée par le Premier ministre a été qu'aucun changement ne peut être introduit sans l'accord de tous les pays du Commonwealth, dont la reine est le chef d'État. Mais un amendement à cet effet a néanmoins été proposé à la Chambre des communes par un député libéral et suivra son cours. Il suffit de se rappeler à quel point la religion du souverain, l'exclusion des catholiques de la succession, ont été au cœur de l'évolution constitutionnelle du pays pour mesurer la portée des changements proposés que je viens d'évoquer. J'ai beaucoup parlé du droit coutumier constitutionnel et son adaptation à la démocratie parlementaire, assez réussi en Angleterre au cours de ces deux derniers siècles. Mais il ne faut pas oublier que si la Constitution anglaise a duré si longtemps, elle le doit quand même en partie à son contexte national, religieux et social. L'histoire de l'Église d'Angleterre et de l'establishment en général est liée à celle de la Constitution. La présence des deux archevêques et de certains évêques à la Chambre des Lords, les prières récitées par un aumônier avant les séances des communes en sont la preuve. De même, un sens de l'identité nationale renforçait la fierté en la Constitution et son histoire. L'affaiblissement et le déclin de l'Église d'Angleterre, l'immigration forcenée sans assimilation, le multiculturalisme et sa sœur cadette, la diversité, la pensée unique et sa sœur jumelle aussi, la pensée unique, l'ignorance de l'histoire en particulier et l'indifférence générale ont gravement miné le sens de l'identité nationale du pays. Les modifications à long et proche terme de la société britannique ne manqueront pas d'avoir un effet sur l'évolution de la Constitution dans les années qui suivent. En guise de conclusion, revenons un instant à la nouvelle Cour suprême. On l'a vu, elle a déjà donné la semaine dernière des premiers signes de vouloir défendre les droits du citoyen. Mais aura-t-elle le courage de donner expression à cette nouvelle souveraineté populaire dont parle Vernon Bogdaner, en déclarant telle ou telle loi inconstitutionnelle, comme le faisaient certains juges sous le règne de Charles Ier? La Cour suprême américaine a très tôt commencé à le faire, en 1803, sans que la Constitution lui donne explicitement ce droit. Selon certains, la Cour suprême anglaise s'inspirera de l'idéal américain, venu d'ailleurs à l'origine de l'Angleterre, et je cite, « d'un gouvernement des lois et non des hommes ». Vieil idéal aussi de mes parlementaires français de la fin de l'Ancien Régime, ces pionniers aussi de l'activisme juridique que j'ai évoqué tout à l'heure. Tout dépendra de la volonté du prochain gouvernement de respecter « the rule of law », le règle de la loi. Ensuite, il faut espérer que la Chambre haute, quelle que soit sa composition définitive, continuera à freiner l'exécutif ainsi que les excès des communes. Depuis l'an 2000, le gouvernement ne cesse de rappeler au peuple soi-disant souverain que dans un monde menacé par le terrorisme à l'échelle mondiale, il y a un choix à faire entre la liberté individuelle et la sécurité. En 2008, ce gouvernement voulait imposer la détention de suspects du terrorisme pendant 42 jours sans avoir à les inculper. Brusquement, le pays se réveilla et l'esprit de la Grande Charte et du habeas corpus, bien malmené aussi ces derniers temps, celui-là, furent invoqués. Un membre important de l'opposition donna sa démission comme député afin de se faire réélire dans sa circonscription comme défenseur des vieilles libertés anglaises. La Chambre des Lords rejeta le projet gouvernemental. Le député fut réélu. Cela donne, je pense, de l'espoir. Le but des réformes constitutionnelles des dernières années, à part un certain contenu socialiste, était de raviver le système politique et constitutionnel et de rapprocher le gouvernement du peuple et de la volonté populaire. Jusqu'à présent, ces buts ne semblent guère avoir été atteints. Pourtant, le Parlement souverain a abandonné plusieurs de ses pouvoirs, soit par la dévolution, soit par l'acceptation du rôle législatif de l'Europe, soit encore par la création d'une Cour suprême. Il y a quand même un élément de continuité dans tout ceci. L'évolution à l'aveuglette, et j'insiste beaucoup sur ce point, l'évolution à l'aveuglette de la Constitution anglaise est une constante de sa longue histoire. Elle s'est accommodée de bien des changements, mais elle demeure unique et, à mon sens, résolument coutumière. Je vous remercie de votre attention.
Vous venez d'entendre la communication de John Rogister, Coutume et Constitution en démocratie, prononcée le 1er février 2010 en petite salle des séances. John Rogister est historien et correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques.